Non, moi, c'est sur la difficulté d'articuler les émotions et la politique autrement que comme une espèce de la masse passive qui va être un peu agitée par les émotions.
Il y a une autre, en disant ça, moi je crois qu'on oublie une autre modalité d'existence collective, c'est celle du public. Et donc je renvoie aux travaux des pragmatismes et de l'école de Chicago, et c'est vrai que dans ce cas-là, on peut faire une relation assez forte entre les émotions et la constitution d'un public. Quand on a un conflit, bon, alors des grands conflits contre des infrastructures, etc., on étudie finalement comment s'ouvre un espace public de débat, comment il va s'entretenir, et on se rend compte que les émotions jouent un rôle très important. Il y a des séquences émotionnelles pertinentes qui correspondent aux différentes phases de mobilisation. La séquence d'indignation au début, quand on découvre, par exemple, un projet qu'on ne connaissait pas, quand on découvre l'ampleur de l'impact. Bon, ces émotions-là, elles ne sont pas coupées de... Il y a du boulot qui a été fait là-dessus par Patricia Paperman et plein d'autres gens, hein. Ces émotions-là, quand on les découvre, elles ne sont pas contradictoires avec l'usage de la raison. Elles jouent un rôle d'évaluation, de mini-évaluation sommaire, hein. Il est clair que quand on s'indigne, on évalue un déni de démocratie qui a été pris dans une décision, etc. Donc, à différentes séquences, les émotions constituent le ciment d'une mobilisation. Elles peuvent également... quand on a la clôture de l'espace de l'épreuve critique, quand on a un peu le déclin de la mobilisation, on a un autre type d'émotion qui intervient et qui finalement évalue aussi la difficulté de mobiliser, etc. Donc je veux dire, c'est peut-être un peu ce qu'on ressent en ce moment quand on parle de mobilisation universitaire, hein. Je crois qu'il y a, il y a des séquences émotionnelles pertinentes qui sont liées à une certaine évaluation d'un rapport de force, d'un mouvement, etc. Donc elles peuvent s'articuler à la constitution du public, mais c'est plutôt le public. C'est vrai que la foule, c'est peut-être plus compliqué. Il y a autre chose. Quoi.
Il y avait Virginie à prendre Henri Claire, je crois.
Oui, non, en fait, je voudrais que c'est l'exemple qui a été donné par Sophie Boyle. Je trouvais vraiment intéressant et au cœur de nos discussions aujourd'hui. Donc je voulais simplement préciser, peut-être compléter un certain nombre de choses. Parce que vous disiez que les discours. Peut-être pas besoin de deux,
quand même. Je ne sais pas.
Les discours politiques étaient grosso modo à droite et à gauche les mêmes, avec tout un discours sur le vivre ensemble. Un petit rappel, simplement, une petite piqûre de rappel. Je crois que c'est dans les années 95, la région Rhône-Alpes a été largement prise par le Front National, qui s'est d'abord emparé, comme dans d'autres régions en France, du dossier de la culture. Alors, quelle a été l'action du Front National à l'époque? Ça a été justement d'essayer de redéfinir tous les projets culturels, donc en essayant de mettre un point final à tous les projets de développement local dans les quartiers, etc. Et à l'époque, il y avait une fixation très forte, justement, sur le défilé de la Biennale de la Danse, qui avait pour thème la Méditerranée. Et les discours du Front National à l'époque étaient de dire qu'il fallait absolument s'opposer à ce défilé qui, alors je cite de mémoire, hein, mais c'est vous l'historienne, vous retrouverez les sources, qui définissait donc le défilé comme étant un conditionnement idéologique visant à faire accepter une société de l'immigration. Donc il y a quand même, il faut recontextualiser ça par rapport... je pense que c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que dans une ville comme Lyon, qui est une ville extrêmement ségrégée, hein, où tous les quartiers populaires du centre-ville ont été progressivement rénovés, filtragés population, etc., où c'est absolument pas une ville de mélange, il reste que deux petits quartiers à peu près mélangés dans Lyon, le défilé de la Biennale a quand même une portée symbolique extrêmement forte. Alors après, je vous rejoins sur la critique que j'entends au fond sur les analyses de Philippe Dujardin. Qui a comparé à d'autres événements historiques le défilé de la Biennale, effectivement, en disant qu'il y avait, en faisant une analyse très politique de ce qui se construisait là en termes de visibilité, de représentation du vivre ensemble, etc. Mais je pense que c'est quand même pas à négliger. Et puis, dernier point par rapport, c'est juste cette façon de mettre en lien, du coup, un défilé qui finit sur la place Bellecour, donc la place Bellecour qui serait du coup définie par le défilé comme étant un lieu symbolique important et qui après fait l'objet d'attaques de casse pendant les années 95. Là encore, je crois qu'il y a des antécédents, c'est-à-dire il y a quand même des manifs lycéennes en amont qui avaient entre guillemets dégénéré à partir de la place Bellecour, que la place Bellecour à Lyon est quand même un espace public important qui débouche sur la rue de la République, et ça depuis des années, c'est-à-dire que le défilé reprend là aussi un trajet qui est une artère qui fait sens dans les pratiques quotidiennes des habitants. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est les Champs-Élysées, c'est les Champs-Élysées lyonnais. Et puis le dernier point simplement, c'est que dans l'opposition que vous faites entre public et il y aurait ceux qui regardent et ceux qui défilent. Simplement, il y a toutes les analyses de Pierre-Alain Four l'année, je me rappelle plus qu'il avait fait. À partir du défilé, et où il montrait bien qu'en fait un des gros problèmes, à l'inverse hein, des organisateurs de la Biennale, c'est qu'ils n'arrivent plus à toucher le public qui initialement était visé, qui est le public, je caricature un petit peu, mais des jeunes hommes des banlieues populaires. Les jeunes des quartiers ne sont plus du tout touchés par ces actions-là. Mais lui, il parlait même, Pierre-Alain Four, d'une espèce de monopolisation de l'ensemble de ces actions culturelles et de ces projets par les classes moyennes. C'est-à-dire majorité, effectivement, dans ces projets de filles qui viennent soit des villes concernées, soit d'autres villes. Donc c'est beaucoup plus... donc ça me semble beaucoup plus, du coup, pour eux que ça. C'est-à-dire que ceux qui défilent sont pas... y a pas les quartiers qui défilent. Il y a une représentation qui se construit comme ça, mais dans les faits, les choses sont beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, il me semble que c'est en tout cas un bon objet à penser par rapport aux questions qui nous préoccupent aujourd'hui.
En fait, sur le dernier point, ça se construit dans le temps, parce que ça commence en 95-96. Et c'est à ce moment-là que... moi, j'ai les textes de Raymond Barre qui se félicite de cette action culturelle qui permet de réunir la ville-centre et les banlieues, les différents groupes sociaux et culturels de l'agglomération, qui, dit-il, se sont unis de la plus belle façon qui soit, parce que le défilé devient un objet de légitime fierté, etc. Et c'est là où je dis que c'est absolument identique avec ce que va pouvoir dire Colomb un peu plus tard. Mais la politique publique, elle a évolué. Parce que les premiers défilés, ils étaient vraiment tournés vers la question de la banlieue. Et les défilés les plus contemporains, enfin les plus récents, ils ont une visée qui ressemble plus à une visée touristique. Et ils visent différentes villes de la région Rhône-Alpes. Et donc, ils n'ont plus la même fonction. Donc, de toute manière, ils ont une fonction de construction territoriale et non plus de construction sociale du vivre ensemble. Si on s'en tient à la période 96-98 jusqu'en 2002, le tournant c'est 2002 dans l'agglomération lyonnaise, parce qu'on change le trajet justement. Et on est passé du trajet où c'était effectivement la rue de la République et la place Bellecour à un trajet sur une artère qui est une artère utilisée par les voitures et qui n'est plus une artère piétonnière, etc. Et à partir de là, il y a quelque chose qui change dans l'enjeu même de cette Biennale de la danse. Et donc, ce que j'ai décrit, c'est plutôt ce qui s'est passé en amont. Voilà. Après, sur la question de la place Bellecour en tant que telle et sur sa symbolique, je crois quand même que le point important, c'est que quand les acteurs de la période, donc la plus intéressante, avant 2002, parlent du défilé, ils disent que ça a changé leur perception et qu'ils ne veulent plus dire « on va à Lyon, mais on est de Lyon ». Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que, du coup, la place Bellecour, qui est quand même... c'est pas vraiment les Champs-Élysées, parce que les Champs-Élysées, c'est un lieu qui rassemble, je pense, vraiment différents groupes sociaux. La place Bellecour, ça arrive en fonction... Oui, mais la rue de l'Arrêt, en l'occurrence... elle est complètement désertée par les classes socialisées. Ils ne la supportent plus depuis qu'elle est commerçante. Ils sont dans la nostalgie du moment où la rue de l'Arrêt, elle était comme la rue de Rario, c'est-à-dire une rue chic, on pouvait se promener d'une manière chic. Voilà. Et le fait qu'elle ait été transformée dans un développement urbain qui n'est pas du tout lié d'ailleurs à la Biennale, fait que de toute manière, elle est désertée et qu'elle est considérée comme un lieu populaire qui n'a aucun intérêt et qui est présenté comme tel. Par ailleurs, elle s'appelle la rue de l'Arrêt dans une ville où république, c'est un mot qu'on dégrade, et c'est la rue de la chose. Et la chose, c'est la chose politique. Bon. Et donc, il y a toute une intrication que j'ai absolument pas pu développer dans le temps imparti, mais il se trouve que la place Bellecour, elle a aussi une longue histoire et qu'elle est le lieu où on a détruit les maisons des riches au moment de la période révolutionnaire. Bon, on les a pas détruits pour de vrai. Hein. La destruction des maisons des riches dans la période révolutionnaire, c'est le fait que Couthon utilise un petit marteau d'argent pour taper sur des façades. Donc c'est totalement symbolique. Mais le fait d'avoir tapé sur ces façades, c'était une manière de dire voilà ce qu'on fait aux maisons des riches. Et en même temps, on garde le patrimoine urbain de manière assez étonnante dans cette ville de Lyon. Donc il y a toute une série d'intrications. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de repérer comment il y a une succession d'emboîtements d'imaginaires sur la foule. et comment, à un moment donné, les politiques publiques, quand elles investissent l'imaginaire de la foule pour en faire une politique publique culturelle, elles sont également dans l'ambivalence et qu'elles n'arrivent pas à produire, en amont, le sens que ça peut prendre dans cette ambivalence. Voilà. Et que je trouve que là, il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez noué, et que c'est noué avec le fait qu'on ne peut pas promettre... où on ne pouvait pas, je ne sais pas où on en est, parce que ce que décrivait Marc Abeles ce matin avec les Mexicains qui sont constamment en train de manifester, qui se mettent nus et pour autant ça ne bouge pas, il y avait la question de se manifester, être là, et pourtant ça ne déplace pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, le défilé, c'était une manière de se manifester, d'être là, mais le fait que ça n'ait pas déplacé grand-chose, ça a déplacé des discours à l'intérieur des quartiers sur la manière dont ils étaient gérés par les politiques publiques culturelles. Et donc il y a eu quand même des effets d'espace public, mais pas du tout ceux qui étaient prévus. Ça n'a pas produit d'apaisement, ça a produit une désertion, éventuellement un ressentiment. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant à observer pour sortir, d'un certain angélisme des politiques publiques culturelles, non pas pour dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la foule. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ma tendance naturelle, c'est plutôt de décrire la raison sensible et le fait que les émotions publiques peuvent être articulées tout à fait aux raisons d'agir et au jugement, et donc qu'il ne s'agit pas d'être justement dans le stéréotype de Taine, mais de penser autrement les émotions, mais qu'il s'agit aussi de saisir comment elles circulent et comment elles peuvent se déplacer dans des logiques qui aujourd'hui sont des logiques quand même plus de dispositifs foucaldiens et de biopouvoir que de scènes de la cité. Voilà, c'est ça la question.
Michel, Stéphane, Jean-Paul. Oui, moi je voudrais simplement réagir là sur cette question des mouvements de foule et par rapport aux exposés de Sophie et de Maria Claudia. Sophie, tu as cité Freud. Freud a considéré que la cohésion de la foule se faisait autour quand même d'un leader, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas de cohérence interne à une foule. Or, ce qui est intéressant, c'est justement que cette cohérence interne à une foule existe. Et elle se manifeste de façon sporadique, inattendue parfois. Je pense à un auteur qui est mort il y a longtemps, qui s'appelle Tchakotine. Et dans son livre, il fait allusion à une situation précise qui est très très intéressante. C'est celle-ci, c'est à un moment, c'est une foule en panique aux Veldives, et il n'y a qu'une seule sortie, et les gens qui sont coincés dans l'espace des Veldives n'ont pratiquement aucune chance de sortir sans se piétiner eux-mêmes. Et donc s'écraser et mourir piétiné. Or, il y a un moment donné dans le mouvement, parce qu'il s'agit des mouvements de foule, c'est des mouvements, il y a une temporalité, il y a des rythmes, ça a été dit d'ailleurs, il y a un moment donné où quelqu'un dit, mais c'est pas un leader, quelqu'un dit ne poussez pas, et le ne poussez pas est repris comme un rythme par la foule elle-même. Et sous un mode litanique. Et du coup, le rythme d'évacuation épouse le rythme de ne poussez pas, qui est repris par la foule en permanence. Et la situation de panique se trouve en fait régulée par la foule elle-même, de façon spontanée, quoi, imprévue, imprévisible. Et donc, il y a une sorte d'autorégulation de la foule par elle-même, qui est quand même provoqué par une panique à l'origine, hein, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement une situation quelconque. Il y a une panique, quoi. Il y a une menace de mort, quand même, collective. On peut déduire de ça, quand même, dans d'autres circonstances qui ne sont peut-être pas aussi tragiques. On peut déduire de ça que justement, l'idée des mouvements de foule, c'est que, au fond, la puissance émotionnelle collective qui accompagne ces mouvements de foule, qui est au cœur de ces mouvements de foule, n'est pas elle-même appelée à produire un effet de dérégulation, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, et l'exemple est là, mais ce qui a été évoqué aussi le montre d'une certaine façon, hein, ce que vous avez évoqué l'une et l'autre, montre bien qu'au fond, il y a une puissance interne à la foule, une puissance de sa propre régulation, de sa propre cohésion, de sa propre cohérence. Alors, je pense que c'est assez intéressant comme question, parce que ça permet de sortir, en tout cas, du questionnement usuel du traitement, de la manipulation des foules, l'organisation esthétique des foules, etc., comme c'est fait dans les systèmes totalitaires, par exemple, et tout ça, quoi. Qu'on peut penser que la foule livrée à elle-même n'est pas l'expression d'une dérégulation automatique et de la débandade, de la panique, du chaos, etc., quoi. Et c'est pour ça que même si c'est sous des modes parodiques, comme tu as dit, par exemple, où il y a des caricatures aussi d'organisation de foule, des parodies d'organisation de foule dans certaines situations, qui peuvent justement aussi montrer, bon, de façon discutable peut-être, mais qui peuvent montrer quand même comment... Au fond, il y a ces capacités multiples, ce n'est pas une seule, mais des capacités multiples internes à la foule de produire sa propre cohésion. Et sur des figures qui peuvent être inattendues. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas forcément une réponse, d'ailleurs. C'est pour accentuer des choses que vous avez dites.
Oui, moi, je voulais juste, en revenant sur l'intervention sur Lyon et la Biennale, le défi de la Biennale de la danse, le fait qu'on a l'impression d'oublier, enfin, qu'il y a d'abord une genèse qui est typiquement locale de ces mouvements-là. C'est-à-dire, ça part du terrain. C'est sur le terrain qu'est née cette idée, ce travail, avant d'être récupéré par les politiques, avant qu'il y ait une adhésion du politique qui peut-être dépossède après, effectivement, les gens de leur dynamique et de leur création, mais au départ, c'est quand même né très localement. Alors, je trouve que faire une analyse a posteriori par des discours uniquement politiques, c'est quand même aussi ignorer qu'à un moment donné, il y a des forces qui sont venues de ces quartiers, qui ont eu envie de s'exprimer, qui ont été organisées, qui ont été effectivement après aidées par des artistes. Bon, mais je pense que le jeu entre finalement... le fait de vouloir se montrer dans une ville et de commencer à exister pour le reste de la ville, et le fait que des politiques saisissent cette occasion pour asseoir un discours, pour asseoir politique, est quand même à noter, à différencier, parce qu'on n'est pas actuellement, je pense, on n'est pas dans une manipulation, dans une instrumentalisation de la Biennale de la danse. On est dans un objet qui est né dans les quartiers, qui se trouve, qui a fait adhésion, parce que justement, il y a peut-être des artistes qui s'y sont penchés. Ben voilà, je trouve qu'il y a un moment donné, il y a peut-être une distinction à faire entre la saisie par le politique d'objets culturels qui se sont décidés sans lui et qu'il récupère en chemin. Et sur la question de la foule, enfin du défilé, bon, le fait que le Brésil intervienne après, c'est quand même bien aussi l'histoire du carnaval. Il y a un côté festif dont vous n'avez pas parlé. Ce n'est pas qu'à but politique d'expression, et le fait qu'il n'y ait que de la frustration qui puisse sortir de là. Au contraire, je pense que... Donc voilà, donc il y a aussi un côté à un moment donné... de prise de possession de la ville par ceux qui n'y ont pas droit. Je crois que ça existe et que ça a été quand même analysé aussi. Bon, et que ce n'est pas que... Voilà. Donc je pense que là, il y a... C'était pour nuancer et voir un peu dans l'historicité les événements successifs.
Alors, moi, je n'ai pas dit du tout que c'était que d'un seul côté. J'ai dit que c'était ambivalent et que ce qui était intéressant, c'était l'ambivalence. Mais en l'occurrence, dans les quartiers, ce qui est né, c'est la Biennale de la danse en tant que telle. Mais le défilé, c'est quand même une décision de Guy Darmet. Et quand il explique la décision qu'il a prise, il dit que c'est en référence justement au carnaval de Rio et à la question de la danse urbaine, donc le hip-hop d'un côté et le carnaval de l'autre. Et donc il y a quelque chose là qui a été immédiatement canalisé par les politiques de la ville. Et avec des montages financiers complexes qui sont bien des politiques publiques et qui ne sont pas quelque chose qui viendrait spontanément des quartiers, etc. Et surtout, ça n'a pas réussi à tenir après 2002, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire venir les gens même dans les ateliers de danse. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, par exemple, à faire en sorte qu'il y ait toujours des jeunes filles, mais les jeunes gens ne sont plus venus. Et donc la mixité qui a existé, je dirais, au moment de l'apogée du défilé, on constate qu'il y a eu une régression à un moment donné assez forte. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette ambivalence et de l'ambivalence et de la foule et de la politique publique culturelle qui se présente quand même, parce que c'est un point aveugle de ce que j'ai fait aujourd'hui, comme une politique de démocratie participative, mais qui à un moment donné ne tient pas compte de ce que peuvent être les attentes réelles de finalement les personnes concernées en tant qu'acteurs. Voilà. Et donc, je ne pense pas qu'il faille donner une vision caricaturale. Je crois qu'il faut montrer les deux. Il faut montrer à quel point les gens étaient enthousiastes et comment ils peuvent pleurer à la fin de l'événement parce qu'ils savent que quelque chose s'arrête, comme quand on a réussi quelque chose de très fort. Et donc, il y a à la fois une intensité et en même temps quelque chose qui ne peut pas aller jusqu'au bout de sa promesse tout en étant quand même constructeur d'un lien réel, mais d'un lien complexe qui n'est pas aussi idyllique que celui qui a été décrit sous le nom, par exemple, de magnification. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de magnification, qu'il y a aussi quelque chose d'un autre ordre.
Stéphane, et après Jean.
Oui, moi, c'est pour revenir un petit peu peut-être sur l'interrogation que Jacques Lolive avait avant. Il disait pourquoi pas parler de public. Et il me semble, pourquoi pas parler de public plutôt que de parler de foule, en l'occurrence pour le défilé, hein. Et puis je rajouterai à cette question peut-être celle de pourquoi pas parler de carnaval, qui est encore une autre forme, je pense, d'organisation de la masse. Et puis enfin, il me semble, une autre question encore que je me pose à toutes les deux, hein, qui est pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de la même manière qu'on a un peu des constitutions émotionnelles, des séquences émotionnelles de constitution de public, on a aussi des séquences de constitution de foule qui sont notamment étudiées par Tarde, par exemple, et ça, je vous l'entends pas citer, alors je suis un petit peu étonné parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il est quand même assez reconnu et revient assez fort. Donc, voilà. Donc, et je dirais, ma première question, donc, c'est un peu pourquoi pas une typologie un petit peu plus précise des formes de, je ne sais pas, pourquoi parler de foule et pas parler de carnaval, pourquoi pas parler d'un, et pourquoi... Non, mais c'est dit, oui, mais c'est dans les choix, quoi, parce que c'est un choix qui est fait quand même, et j'ai du mal à comprendre, moi, en quoi la Biennale de Venise, c'est une foule, déjà.
Dans Freud, une armée, c'est une foule. Hein, donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui constitue... La question de la masse, la question de la foule et la question de l'organisation finalement du collectif, du groupe, de la possibilité d'être traversé par les mêmes émotions ou le même rythme ou le etc. Donc oui, c'est un vaste débat, c'est-à-dire qu'on m'a dit 10 minutes pour pouvoir ouvrir des questions. Voilà, je pense qu'elles sont ouvertes, c'est très bien.
Et juste mais une question,
en ce qui
comment
me concerne,
s'appelle
attends, je vais finir quand même, parce qu'en ce qui me concerne, j'avais prévu une partie que j'ai pas eu le temps de faire, qui était justement de dire, mais la foule telle qu'elle est décrite par Taine, Le Bon et éventuellement Freud, et telle que, à mon sens, elle est quand même ambivalente dans la Biennale, parce que la Biennale, elle est à la fois un lieu chorégraphié, mais avec les imperfections de la chorégraphie et avec la difficulté de la pression du public, et le public en tant que tel, il est ambivalent, parce que est-ce que c'est du public qui est en train de faire le spectacle, ou est-ce que c'est le public qui regarde des spectateurs, et où est la foule entre les deux, et quel type de foule anomique ou pas anomique de part et d'autre? Parce que voilà, la question elle est aussi de toutes parts, et dans l'usage de la chaussée il y a effectivement un partage qui se fait. En ce qui me concerne, sur la Révolution française en particulier, ce que j'ai constamment voulu montrer, c'est à quel point, en fait, il y avait des foules qui étaient capables de s'autoréguler et qu'elles sont louées, justement, pour leur autorégulation et leur capacité, même dans des moments festifs qui pourraient dégénérer, comme on dit, à ne pas produire un seul événement qui s'appellerait risque, émeute, etc., et qui sont opposés aux foules d'Ancien Régime, aux fêtes d'Ancien Régime, par exemple à celle qui avait été donnée pour le mariage de Louis XVI, qui avait produit au contraire des phénomènes de panique et où il y avait eu énormément de morts. Donc je suis d'accord, hein. La question c'est comment on pose une question par rapport à une tradition et à l'imaginaire de la foule, et où on en est aujourd'hui dans cet imaginaire de la foule pour essayer de ne de ne pas être trop angélique.
Voilà, oui, mais est-ce que c'est le bon imaginaire, c'est ça?
Est-ce que je peux juste dire un mot? Je voulais. Oui, c'est très rapide. Non, c'est très rapide. C'était juste par rapport à ce que demandait Stéphane, une distinction entre la foule et le public. Il est. Ben, le carnaval, j'en sais rien. Mais le public, il est là pour aller voir une représentation, quelle qu'elle soit, de football, d'œuvre d'art, etc. C'est-à-dire que le public vient pour consommer.
On va parler du public.
Attends.
Ah non, vous n'êtes pas d'accord? Pardon. Je peux continuer? Donc moi c'est ma, oui, donc va voir les publics, le public va voir des représentations et à l'intervention que j'ai faite il y a une semaine, j'ai parlé d'un terme qui a émergé dans les textes notamment de Cassel, Documenta de Cassel et à Münster et à la Biennale de Venise, qui était le terme de spectatorship, c'est-à-dire le spectatorat, comme on dit leadership ou comme on dit voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a là une gestion de cette masse, de cette foule, de ces spectateurs dans un but qui est bon, comme on n'a pas le temps là d'en parler, mais je fais la distinction avec la question de la masse. Effectivement, dans les manifestations qui sont les Nuits Blanches ou qui sont d'autres manifestations qui sont absolument généralisées dans les pays du Nord, la masse se constitue à partir du moment où il y a l'agrégation des spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné effectivement une agrégation et quelque chose d'autonome est en train de se passer, qui n'est plus dirigé vers ce que l'on va voir, mais il y a ces relations humaines sur le moment donné dû à l'agrégation. Bon, ça c'est mon
simplement parce qu'on a deux interventions, une grande différence justement dans le dispositif entre ce que j'imagine être le carnaval au Brésil et ce que je connais du défilé, c'est que le défilé à Lyon, il y a des barrières, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est défini, qui est cadré, et qu'il y a des spectateurs qui ne sont pas une foule d'ensemble, qui ne sont pas une foule qui accompagne, qui sont des individus qui ne bougent pas, qui sont coincés entre des barrières ou c'était le cas au Daré. C'était le cas au Daré. J'ai participé à tous les défilés. J'habitais à Lyon maintenant. Si, c'était le cas. Ça a toujours été le cas. Donc là, on n'a pas du tout. C'est pas une foule participante. Donc c'est une question importante, je crois. La foule, le public.
Alors. Non, attendez, je pense que là il y a une matière, il y aura matière à organiser une journée ou une demi-journée, je crois, sur l'action du public, de la foule et des ambiances. Donc je donne la parole encore à ceux qui ne l'ont pas eu sur ce thème-là, avant de passer au dernier atelier. Jean-Claude.
Non, mais c'est un peu le prolongement de cette discussion qui est pour moi très très intéressante, parce que précisément on voit bien comment il y a des positionnements théoriques qui ne sont pas forcément les mêmes. Il a été évoqué tard tout à l'heure, qui était complètement absent du discours sur la foule, ce qui peut paraître effectivement un oubli qui pose question en tout cas. Donc effectivement, je pense que peut-être Jacques, Olive et Nathalie Blanc auront l'occasion d'en dire un peu plus sur la question du public, mais il y a certainement un enjeu important pour réfléchir sur ces questions-là, et aussi des types de référenciation à la notion qui sont extrêmement diverses et extrêmement différentes, voire même antagonistes. Faudrait voir. Bon, premier point. Deuxième point, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les deux interventions, je les ai trouvées très très intéressantes. Alors, bien sûr, on peut discuter sur l'usage qu'on fait de la notion de foule, et est-ce qu'il y a foule, est-ce qu'il n'y a pas foule, est-ce que c'est le même contexte ou pas, etc. Bon, ça, c'est effectivement des choses qu'on peut discuter, mais on peut aussi avoir un autre intérêt, je trouve, sur les deux exposés, qui est un intérêt heuristique pour travailler sur l'ambiance. C'est-à-dire qu'il me semble que, par la foule, il y a la mise en évidence d'un certain nombre de processus, du type de celui de la contagion des émotions, celui de la cohérence interne de l'ambiance, celui de la puissance émotionnelle des situations. On a au moins là trois termes qui pourraient valoir mot pour mot et pourraient s'appliquer mot pour mot à l'ambiance. Donc la question, c'est est-ce que ce serait pas intéressant aussi de poser la question de la foule, non seulement en termes de contenu concret, empirique, tel que vous l'avez posé sur la foule à place de la rue de la République ou la foule au Brésil, bien sûr, mais aussi en termes purement heuristiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'une pensée sur la foule, avec l'ensemble de références que vous avez, le bon, Tard et j'en passe, Ten et Benjamin, etc., comment est-ce que toutes ces pensées-là peuvent nous aider aussi à travailler sur la notion même d'ambiance, dans les caractéristiques et l'heuristique même qu'elle met en œuvre. Donc là, c'était plus, disons, un autre point de vue qu'on pouvait écouter dans vos interventions, qui n'était pas la foule en tant que telle, mais la foule comme notion heuristique pour penser à l'ambiance.
Merci.